Nous sommes mardi soir, il est 21h, l'heure du crime en Anjou. Et vous êtes sur Radio G au 101.5 FM. Alors, c'est que le mois de décembre est bien avancé et que nous vous avons délaissé pour la dernière de novembre. On le sait, cet abandon injustifié était le pire des crimes. On va donc tout faire pour ne pas récidiver à l'avenir. Nous vous avons concocté un petit programme familial pour cette nouvelle édition. Nous reviendrons dans un premier temps sur le festival Imaginaire qui s'est tenu au Grenier Saint-Jean à Angers les 27 et 28 novembre dernier, et tout ça avec Pierre-Marie Soncarieux. Luc vous parlera de sa toute première fois avec Luc.
Avec Dolores Redondo. C'est tout.
Dolores Redondo, c'est du teasing et c'est tout. Puis nous allons partir de l'autre côté de l'Atlantique pour une double confrontation avec un parrain d'une part et une marraine d'autre part. Thématique que nous allons user jusqu'au bout du saxo de Toups. La programmation musicale est assurée par notre gizmo national à nous, à savoir Jean-François Micard. Avec vous aujourd'hui, Luc et Julien pour une émission enregistrée. En toute petite filigrane, Linda et Toups. Vous écoutez Calibre 58, l'émission qui vous donne envie de vous plonger dans le noir. Et maintenant, générique maestro. Vous écoutiez She de Clan of Ximox, enregistré sous le label Spider on the Wall. Si j'en crois ce que m'a dit Jean-François, il s'agit avant tout des parrains de la nouvelle scène gothique. Ceci expliquant cela, on peut maintenant revenir sur cette édition du Salon Imaginaire. Festival avant tout dédié à l'imaginaire évidemment, mais qui depuis quelques éditions s'est également tourné vers le polar, son mauvais genre de neveu en quelque sorte. Pierre-Marie, bonjour. Qu'est-ce que le Salon Imaginaire et quels en sont ses moments marquants ?
Alors, le Salon Imaginaire, c'est un temps fort de la ville d'Angers. Je ne vais pas parler des Angevins parce que on a énormément de reconnaissance, pas que sur Angers, et je dirais plutôt au niveau régional. Donc voilà, c'est un temps fort culturel régional. C'est un salon dont le but est de faire venir à Angers pour que tout le lectorat de cette région puisse rencontrer des acteurs des mondes de l'imaginaire et depuis un peu moins longtemps des mondes du polar, littérature de l'imaginaire et littérature du polar, à la rencontre de son public, de manière à pouvoir soit découvrir des nouvelles plumes, soit de mettre une tête, un visage, un sourire, une voix sur le nom d'un auteur. Le moment fort, les moments forts qui se sont passés cette année, c'est déjà le fait que ça se soit passé. Pour rappel, 2020-2021, ce sont deux années qui ont été durement impactées par le Covid, encore plus pour le milieu culturel que pour le milieu économique, puisqu'il n'y a pas les mêmes enjeux derrière. Du coup, nous avons subi trois annulations. On a enfin réussi à faire notre salon, qui est un salon reporté de mai 2021. Les moments forts, c'est la présence de toutes ces personnes-là. Un quart de nos intervenants ne venaient pas du tout de la porte à côté. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y avait au minimum plus de 4 heures de train pour venir à Angers et ils y sont venus pour passer un week-end à la rencontre du public angevin. Du fait du protocole sanitaire, il n'y a pas eu de prise de parole vraiment publique. On nous a demandé d'éviter ça pour limiter les possibles transmissions, que ça soit du Covid ou autre, en maladie. Et du coup, il n'y en a eu qu'une, qui est celle de la remise du prix à Iodal, dont on reviendra un peu plus tard.
D'accord, et justement, on y revient tout de suite. Pour quelles raisons avez-vous récompensé Philippe Ward du prix Iredale et qu'est-ce que ce prix à Iredale ?
Le prix à Iredale, pour revenir à l'origine de ce prix, c'est un auteur à Iredale, qui est un auteur francophone puisqu'il était belge de mémoire, natif français mais et belge naturalisé, et il a écrit beaucoup dans l'imaginaire et dans le polar. C'était vraiment un auteur qui faisait la jonction, et en plus de ça, c'était un être humain extrêmement chaleureux pour tous ceux qui l'ont connu. C'est sans doute sa qualité qui était le plus mise en avant, c'est que c'était quelqu'un qui était extrêmement chaleureux et qui était toujours là pour mettre en contact les personnes. C'était un passeur de contact. Beaucoup de personnes des littératures de l'imaginaire actuelles sont éditées ou sont reconnues au niveau où ils le sont grâce à lui, parce qu'il a été là pour dire « Attends, tu écris super bien, moi je ne peux rien faire pour toi, mais va voir telle personne, crois-moi, tu as toutes tes chances pour t'en sortir, pour être édité, pour être lu. » Donc voilà, c'était quelqu'un qui était extrêmement important pour pas mal de personnes, pour pas mal d'acteurs des mondes de l'imaginaire, et il est mort malheureusement en 2015. Et nous avons décidé, nous avons demandé à sa compagne encore vivante, si nous pouvons utiliser son nom, pour créer un prix littéraire qui veut récompenser la carrière de quelqu'un, d'une personnalité, des mondes de l'imaginaire et du polar. C'est-à-dire que nous ne récompensons pas une œuvre qui vient de sortir et qui sera passée, peut-être rééditée et perdue dans l'oubli au fil des années. Nous voulons récompenser vraiment une personnalité qui, par son engagement pour les littératures, que ça soit pour les littératures de l'imaginaire ou les littératures du polar, et pas que, puisque dans les prérogatives, que ça soit un auteur, mais il faut aussi que ça soit quelqu'un qui ait été soit éditeur, soit directeur de collection, soit directeur de fanzine et ou traducteur. Donc vraiment qu'il y ait plusieurs casquettes, qui n'est pas juste écrit. Nous voulons récompenser en fait toute une carrière mise au service des autres. Et cette année, c'est Philippe Ward. Alors tu m'as demandé pourquoi est-ce qu'on avait choisi Philippe Ward. Parce que Philippe Ward, il est très connu pour son implication depuis les années 2000 au sein de la maison d'édition Rivière Blanche, qui a permis de faire connaître beaucoup de personnalités auteurs dans les mondes de l'imaginaire. On pensera notamment à Thomas Géa, on pensera aussi à moindre échelle à Laurent Wall, et pas que, puisque une énorme partie de la carrière polar de David Cara, il a vraiment travaillé pour beaucoup de maisons d'édition, et ça a été un passeur de talent, c'est ça, découvreur de talent. Et donc, nous voulions le remercier pour ces 30 ans, 40 ans d'implication dans les milieux de l'imaginaire et du polar, dans les milieux populaires, en fait, littérature populaire. Et c'est une raison pour laquelle nous l'avons cherché à le remercier. D'une certaine manière, le Salon Imaginaire n'aurait jamais pu exister sans lui, car il a été là dès le départ. Alors, c'est pas un de nos parrains, mais c'est quelqu'un qui a été présent dès le départ, qui a cru en nous et qui a cherché, par son réseau, à nous faire connaître.
Comment vous voyez l'avenir, vous ?
On a envie de le voir bien. C'est un des grands thèmes qui se découvre actuellement. Nous sommes dans des périodes civiles, citoyennes, assez sombres, assez dures. On se demande comment est-ce que la vie va évoluer. On ne peut plus penser à revenir à une vie comme on en a vécu. La vie d'avant n'existe plus. Le monde d'après est encore sans doute plus sombre que celui d'avant. On a envie d'y croire. On a envie de croire qu'il va se passer des belles choses. Imaginaire 2011 est en préparation. On espère avoir en juin prochain. Le Laserfest, qui est le deuxième salon, ce sera la deuxième édition de notre deuxième salon dédié aux arts ludiques, notamment jeux de rôle et jeux de société, est en préparation pour le mois de juillet ou de septembre. Nous hésitons encore. Voilà, des actions sont menées et nous partons du principe que tout va bien se passer et que toutes verront le jour et le public va pouvoir y participer.
Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On prendra des nouvelles assez fréquemment pour savoir où vous en êtes et quels seront les différents plannings. Pierre-Marie, je te remercie et je te dis à bientôt.
C'est moi qui te remercie et à très bientôt.
Alors, on ne le répétera jamais assez, la culture doit être au cœur de la société. Lire peut être essentiel, mais ce n'est pas le seul moyen de se cultiver. On peut aussi aller à la rencontre des auteurs. C'est un moyen un peu plus récent, mais ça permet de faire de belles découvertes tout en désacralisant l'icône de l'écrivain. Et à Imaginaire, on est très loin du gars à lunettes qui fume la pipe devant sa machine à écrire. Mais c'est maintenant l'heure de la toute première fois de Luc. Alors Luc, c'était comment avec Dolores Redondo ?
Eh bien oui, tu as bien parlé de teasing tout à l'heure et je suis resté assez évasif puisque je n'ai donné que le nom de l'autrice, Dolores Redondo, et je vais donner maintenant le titre de sa première fois et c'est « Le gardien invisible ». Et je me dois de te livrer un scoop qui risque fort de te déstabiliser. Julien, non, le roman noir n'est pas que le fait de vieilles anglaises au risque de réveiller ton ire. J'ai nommé Agatha, j'ai nommé Ngayo ou Dorothy, eh bien non, il y en a d'autres. Et pour le prouver aujourd'hui, je t'emmène en Espagne du côté de la Navarre avec la toute première fois de Dolores Redondo, le gardien invisible, premier volet de ce qui s'appellera la trilogie de Bastan. Autant te le dire tout de suite, c'est noir, très noir. L'histoire se déroule à Elizondo, petite ville de 3500 habitants, au cœur de la Navarre, où, je peux te dire, il s'en passe de belle. Par un soir de février, on retrouve au bord de la Bidasoa, Bastan, quand elle traverse la Navarre, le corps d'une jeune fille allongée, dénudée, de toute évidence disposée un peu comme une madone, une pâtisserie navarraise posée sur le bas du ventre. Ce qui a permis de découvrir le corps, les chaussures de la victime disposées au bord du chemin, parfaitement visibles. Mais à peine quelques jours après, un second corps est découvert, pas au même endroit, mais dans un lieu similaire, le bord d'une rivière, dans la même posture et toujours ses chaussures mises en évidence pour indiquer le lieu où est le corps. Il n'en faut pas plus pour que la population accuse un être mythique des bois, le Bazajaon, rumeur reprise, on s'en doute, par la presse. Cela sent pourtant le meurtrier en série, l'inspectrice Amaya Salazar du commissariat régional de Pamplune est mise sur l'affaire parce qu'elle a suivi une formation sur ce type de meurtrier au cours d'un stage organisé par le FBI à Quantico. Mais Elizondo est la commune de naissance de l'inspectrice Salazar, qu'elle a quittée, plutôt fui, dès qu'elle a pu à cause de son histoire familiale. Y revenir, c'est remuer tout son passé et je ne vous la fais pas, mais il est très lourd, vraiment très lourd. Pour cette enquête, elle sera assistée de Jonan Echaide, un inspecteur adjoint homosexuel, Fermín Montes, un inspecteur récemment divorcé. Elle sera aussi aidée par deux sous-inspecteurs directement rattachés au commissariat d'Elizondo, Iriarte et Zabalza. Très vite, l'hypothèse du meurtre rituel va être la piste suivie par Amaya Salazar. Dit comme ça, ça pourrait passer pour un savant assemblage digne d'un page-turner. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça et je rangerai plutôt ce polar dans la case anthropo-ethnologique. Dolores Redondo connaît le lieu de l'action. Toutes les indications géographiques qu'elle mentionne sont parfaitement exactes. Elle connaît la culture navarraise et ses légendes sur le bout des doigts. C'est une région de montagne où les mythes sont encore très prégnants. Le fameux Basajaon, soupçonné d'être le responsable de ces crimes, par exemple, est un être de la forêt mais que personne n'a jamais vu. La religion y est toujours très influente. Les bébés morts nés, donc non baptisés, ne peuvent pas être enterrés au cimetière. On est en février, il pleut tout le temps, il fait toujours sombre. La forêt est décrite comme un être vivant et inquiétant, et les femmes et les hommes sont à l'avenant. Pour ceux qui ont un peu voyagé, Bastan semble ressembler à ces forêts noires des Ardennes belges ou à l'immense forêt de sapins du nord des Vosges. Dolores Redondo tisse avec beaucoup de subtilité l'entremêlement de ces traditions, de cette culture et de la vie moderne. Et lors des déplacements d'Amaya Salazar entre Elizondo et Pamplune, distante d'à peine 60 km, elle nous fait passer du Moyen-Âge au XXIe siècle. Ce qu'elle nous dit de Bastan et d'Elizondo, qui paraît à nos yeux très archaïque, recoupe parfaitement les observations faites par Jeanne Favret-Saada dans son livre « Les mots, la mort, les sorts », étude de la sorcellerie publiée en 1977 et faite dans le bocage mayennais. Le Gardien Invisible, initialement publié chez Stock mais réédité chez Folio, est le premier volet d'une trilogie qui se poursuivra avec « De chair et d'os » et se terminera avec « Une offrande à la tempête », deux romans tout aussi noirs et inquiétants. Son dernier roman, La cara norte del corazón, La face nord du cœur, publié en France cette année, est presque ce que l'on appelle le préquel de la trilogie de Bastan, puisqu'il nous raconte le stage qu'a fait Amaya Salazar au FBI, où elle participe à la chasse à un serial killer alors que l'ouragan Katrina dévaste la Nouvelle-Orléans. Mais ceci est une autre histoire.
Ceci est une autre histoire, en effet. Moi, je me rappelle quand le roman est sorti, ça avait été une vraie claque littéraire et il avait fait son petit, on va dire, allez, prenons des gros mots, tremblement de terre dans le paysage. Et j'avais l'impression quand même que, à l'inverse de certains des romans dont tu as déjà parlé, c'est peut-être son meilleur et c'est peut-être son problème à Dolores Redondo. C'est-à-dire que sa toute première fois, c'est sa meilleure fois.
C'est le problème des premières fois, c'est souvent les meilleures, quoi. On sait pertinemment que le problème d'un auteur, c'est pas le premier, c'est peut-être le deuxième, mais c'est surtout le troisième. Parce qu'effectivement, il faut réussir à réveiller ce qu'on a, toute l'énergie qu'on a mise dans le premier roman pour avoir lu les deux autres. Je suis assez d'accord. C'est vrai que le premier est d'une densité, d'une tension, et puis il nous plonge dans un univers tellement différent de ce qu'on a l'habitude de lire dans le polar que, effectivement, les autres paraissent un peu retirés sur la même corde. On est dans une trilogie, mais sortir sur la même corde, et c'est peut-être un peu frustrant finalement au bout du compte.
Oui, parce qu'il n'a peut-être pas été d'ailleurs construit comme une trilogie, mais plutôt comme trois romans qui font une trilogie. S'il avait été construit d'une façon unitaire, il n'y aurait pas eu ce problème-là, ce problème de redite qu'on peut trouver, ce problème de... c'est comme toutes les séries en fait. Quand une trilogie devient une série, elle est peut-être mauvaise parce que une trilogie qui est une série, c'est un volume que tu retrouves avec plaisir dans ce que j'appelle la littérature en charentaise, et surtout avec des éléments que tu as déjà posés dans le premier, que tu n'as plus besoin de poser, mais que tu es obligé de rappeler. Et là, ça devient un peu plus délayé, justement. Voilà, mais bon, on pourrait parler à cet été là-dessus. Et pourtant, c'est pour ça que j'aime Agatha, dont tu parlais au début.
Les vieilles anglaises.
Que N'Gayo, etc., etc. Sur ce, on va laisser donc Dolores Redondo de côté. On va maintenant écouter cette petite lecture musicale que je fais avec Toups autour d'un film que je vous laisse découvrir maintenant. Et dans la foulée, Luc nous fera le pitch de ce film dont on parlera. Et on vous parlera également d'une marraine un peu particulière, Queenie, qu'on découvre cette année en bande dessinée, qui va donc ressortir également l'année prochaine, aussi en bande dessinée. Voilà, mais pour l'instant, c'est l'heure du saxo de Toups.
1972, il fallait remonter 40 ans en arrière pour trouver un film talentueux
qui abordait un thème aussi périlleux que celui de la pègre. C'était Scarface, d'Howard Hawks, avec Paul Mooney et Anne Vorak. Mais en 40 ans, les États-Unis ont bien changé. La pègre aussi. La prohibition a disparu. Et le crime organisé mérite amplement son nom. La Cosa Nostra a étendu ses tentacules. Mais certains croient encore qu'il faut conserver les traditions et ne pas traiter du commerce de la drogue. Marlon Brando est de cela. C'est important pour lui, la famille. D'ailleurs, au début, on assiste à un mariage tout droit venu d'Italie et implanté en Amérique. Mais Marlon Brando, avec sa voix éraillée, ses airs fatigués, sait aussi que la mafia, c'est une charge à assumer et qu'il est important de protéger les siens. Son préféré, c'est Al Pacino. On peut le comprendre. Il a eu le droit à des études et à une table de bal éloignée de celle des truands. Mais tout le monde n'est pas Marlon Brando. Et il y en a pour tout bafoué. Une véritable guerre va s'installer. Meurtrière, terrible. Et le petit protégé va se retrouver dans l'arène. Pire, quand le roi sera mort, il sera le nouveau roi. Vive le roi! Hormis le talent de Francis Ford Coppola, hormis la thématique, hormis des acteurs extraordinaires, à quoi tient un film? Peut-être à une musique envoûtante, entêtante. Et Nino Rota est passé maître dans cet art délicat. C'est lui qui accompagne le plus souvent Fellini, parfois Visconti. Il délaisse cette année-là le cinéma italien pour The Godfather. Et c'est le début d'un triptyque génial. Après ça, vous ne regarderez plus jamais votre parrain du même œil.
sommet du cinéma, puisque le film en question, Le Parrain, est classé dans les plus grands films du monde. Alors, pour qui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui est dit sur Wikipédia. Est-ce que Wikipédia a des vertus de véracité? Ça, Dieu seul le sait. On est bien dans le mauvais genre, dans l'émission Calibre 58, qui est diffusée sur Radio G. Et l'émission, en tout cas sa thématique, n'aura jamais mieux porté son nom que ce soir. Comment, d'abord, pourrais-je avoir l'outrecuidance, et tu vois le champ lexical dans lequel je m'inscris, Julien, de présenter Le Parrain de Francis Ford Coppola en 2022, 50 ans après sa sortie. Bon, ça y est, je me lance. Don Vito Corleone, The Godfather, hiératique Marlon Brando à la voix d'Outre-Tombe, est un des maîtres de la pègre de New York. Comme tout bon parrain, on lui doit respect inconditionnel. Ses affaires vont commencer à mal tourner quand Virgil Solozzo, joué par Al Lettieri, alias le Turc, lui propose de s'associer dans le trafic de drogue. Mais Don Corleone refuse au prétexte que ses affaires vont très bien et que la drogue, eh ben, c'est sale. Le Turc va très mal prendre ce refus, donc Corleone, pressant les ennuis, il va envoyer l'un de ses hommes de main, Luca Brasi, joué par Lenny Montana, tenter d'infiltrer la bande du Turc. Celui-ci n'est pas dupe et il va l'éliminer sur le champ. La guerre est déclarée, seule solution pour le Turc, éliminer Don Corleone. L'exécution se fera devant une épicerie. Balle tragique à New York, le parrain s'en prend 5 des balles. L'heure de la vengeance a sonné. L'ange exterminateur sera le plus jeune fils de Don Corleone, Michael, Al Pacino, je vous avais parlé d'ange, jusqu'à présent resté en dehors des affaires de la famille. À la surprise de tous, il se désigne volontaire pour éliminer le Turc et McCluskey, immense Sterling Hayden, capitaine de police corrompu.
Immense Sterling Hayden, c'est un des personnages marquants du film d'ailleurs.
Pourtant, il apparaîtra pas très longtemps en fait, hein.
Oui, mais c'est enfin pour moi qui suis cinéphile, c'est vraiment une gueule du cinéma.
Ah,
c'est,
oui.
c'est une gueule du film noir. Oui. En plus, si on connaît un petit peu l'histoire d'Hollywood, c'est aussi un personnage qui a été hanté par le macartisme,
oui.
Puisque c'est quelqu'un qui a porté sa croix.
Il a porté sa croix, et c'est un autre aspect de Sterling Hayden qu'il faut dont on peut parler. Alors, on s'échappe un peu du parrain, mais c'est pas très grave. Dont on peut parler, c'est que Sterling Hayden était un auteur. Il était passionné de voile. Il a reconstruit son bateau, il a beaucoup navigué, et tout l'argent qu'il gagnait au cinéma, c'était pour financer ses voyages en mer. Il a écrit un magnifique bouquin sur la voile, sur le bateau, sur ses expéditions. C'est vraiment, voilà, c'est un personnage très, très attachant, et dont le métier de comédien n'a servi qu'à financer ses envies de voyage.
Mais je disais qu'il était gris, voire noir, ce Sterling Hayden. Ici, dans le film, c'est un personnage de flic corrompu. C'est un peu l'archétype du flic new-yorkais à l'époque, hein. Il faut bien le dire. Moi, évidemment, j'ai été marqué dans ce film qui, on n'a pas besoin de Wikipédia pour penser que c'est un très bon film. Mon seul étalon pour dire que c'est un très bon film, c'est qu'il dure 1h30, alors qu'il en fait 3h.
Oui.
Mmh. Et ça, quand un film ne fait pas le temps qu'il fait, mais fait beaucoup plus court, c'est que c'est un bon film. L'inverse, c'est que c'est souvent un mauvais film. Voilà, donc... Et j'étais très surpris, alors je ne sais pas si tu te remémores les images, le mariage à l'italienne au début.
Mm-hmm. Oui, qui dure très longtemps, il dure plus d'une demi-heure.
On se prend des images élégiaques d'entrée, il y a une espèce... de fausse allégresse, avec d'un côté l'extérieur où il y a le mariage et de l'autre côté l'intérieur où Marlon Brando rend ses services, un peu tel un cardinal. Mmh. Il a un côté très religieux.
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Alors, je vais commettre un crime de lèse-majesté. Il me semble, moi, que Marlon Brando est caricatural. C'est-à-dire qu'il a d'abord, il s'est recomposé le visage, tout le monde connaît qu'il a de la mousse dans les joues pour lui faire un visage plus rond. Cette voix d'outre-tombe, parce qu'il a vraiment une voix d'outre-tombe, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Et moi, je trouve que, en fait, face à Al Pacino qui prend la deuxième moitié du film, Moi, je dirais presque que heureusement que Marlon Brando disparaît, quoi. Enfin, vraiment, hein. Heureusement qu'on ne le voit plus, parce que je le trouve. Alors, effectivement, il est très. T'as raison, hein. C'est très, presque catholique, mais comment
clérical.
Comment pourrait-il en être autrement avec des Siciliens? Ça, c'est bien la question qu'on peut se poser. Et effectivement, oui, ça. D'ailleurs, c'est assez le contraste. Entre les scènes de Marlon Brando qui reçoit pendant ce mariage et la scène finale d'Al Pacino où tout le monde vient lui rendre hommage et baiser sa bague, et le contraste est terrible. C'est-à-dire qu'on a un homme glacial, enfin une machine, une mécanique avec Al Pacino, alors qu'on a vraiment quelqu'un de presque bienveillant, enfin un bon grand-père, quoi, finalement, en fait, ce Marlon Brando au début du film. Là, il y a un contraste qui est très fort.
Oui, alors peut-être que c'est un bon grand-père parce qu'il a l'habitude et qu'au début, c'était Al Pacino. Ça, on le saura pas. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a marqué, alors j'étais revoir un autre film, j'étais revoir Scarface de Ward Hawks, mm-hmm. Parce que pour moi, c'était le premier film sur la pègre. Et Scarface, c'est le premier au cinéma qui essaie d'organiser le crime. Quelque part. Mmh,
oui.
Et on était dans une période, 1932, donc exactement 40 ans avant le film The Godfather. Et on était dans une certaine morale cinématographique, c'est-à-dire qu'à la fin, dans Scarface, Paul Muni, il se fait dézinguer.
Mmh, mmh, mmh.
Et là, on a un film qui, tout du long quand même, est assez, alors je dirais pas immoral, mais il est au moins amoral.
Ah, il est profondément immoral. Pour revenir sur la première séquence, la séquence du mariage, qui dure à mon avis entre 30 et 35 minutes au début, tu décris deux stades. L'intérieur de la maison où il y a Marlon Brando qui reçoit, tout le monde défile un peu, le mariage, la scène de mariage, le bal, etc. Mais il y a en fait un troisième niveau, c'est l'entrée de la villa où les flics viennent relever les plaques d'immatriculation de tous les mafieux qui sont réunis là. Donc on a en fait les trois états de la société, la police, en fait la vie familiale, et puis la mafia qui est bien enfermée dans sa chambre.
Police qui ne respecte rien. D'ailleurs, c'est dit à un moment donné quand il y a un flic avec un appareil photo qui est rebalancé dehors.
Oui.
Voilà, donc ils ne respectent rien, mm-hmm. alors que ce sont les autres qui ne respectent rien.
Oui, en fait, oui, faut bien mettre les choses. Non, moi, je pense que il y a effectivement dans ce, il y a une Coppola, enfin, il fait un film, d'abord effectivement comme tu l'as dit, magistral, on voit pas le temps passer, magistral parce qu'il y a les gens, il a brossé des personnages qui restent maintenant, qui restent inscrits dans le cinéma, voilà, on ne peut pas y échapper, et puis il y a un savoir-faire, c'est du cinéma américain, il y a un savoir-faire, une maîtrise sur tous les plans et sur un détail, alors qui va paraître anecdotique, mais qui va tout d'un coup rendre le cinéma des fois français un petit peu palichon, un petit peu pauvre, un petit peu faible. J'ai vu dans la foulée Le Parrain et j'ai vu Un Condé d'Yves Boisset. Voilà, deux films noirs faits à 2 ans d'écart. Un Condé en 70, Le Parrain en 72. Un Condé commence par une bagarre. Un mec qui se fait tabasser, un tenancier de bar, qui se fait tabasser dans une ruelle, les poubelles volent et autres. Et puis je me disais, mais ça va pas, cette bagarre, elle va pas. Et dans Le Parrain, il y a un des fils qui va engager, tabasser un de ses beaux-frères parce qu'il a maltraité sa sœur. Et je ne sais pas si tu revois la scène du tabassage par le fils.
Dans, si, si, si.
Ça vole très, ça fait très mal, quoi. Et quand on voit ces deux scènes de bagarre, celle de Yves Boisset et celle de Coppola, on se dit, bon, le cinéma a encore du chemin à faire, hein, en France.
Oui, alors moi je me garderais bien d'avoir ce genre de comparaison, ne serait-ce que parce que tout est plus grand aux États-Unis et la violence est plus grande aux États-Unis. Voilà, donc c'était, il y avait quelque chose et l'héritage du cinéma américain n'est pas le même que l'héritage français du cinéma français. L'héritage du cinéma américain, il est basé sur du fake. Enfin, mm-hmm. c'est le western, c'est comment on s'invente un imaginaire qui n'est pas du tout, enfin comment on s'invente une histoire qui n'est pas du tout la nôtre. Nous, l'imaginaire qu'on peut avoir, c'est Pépé le Moko, c'est quand même autre chose, c'est le brigand sympathique.
Mmh.
Après, moi, je comparerais pas Coppola à Boissé.
Ah ben non, je fais pas la, on part de scène.
Boissé, c'est celui qui a fait Canicule. Non, c'est pas lui, Canicule.
Non, c'est
la datation de Vautrin. Passons sur cette erreur de ma part. Cela dit, on a eu avant Boissé, on a eu Melville. Et Melville, c'est quand même extraordinaire comme cinéma.
Oui, oui, oui. Oui.
Voilà, donc un bon réalisateur fait des bons films. Un réalisateur lambda fait des films qui sont parfois bons, rarement très bons, mais jamais extraordinaires. Le problème de Coppola, c'est que, à part Le Parrain 3 qu'il va faire pour des raisons, il a plus de fric.
Un peu financière.
Ces films. Ils sont tous bons. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir. Même quand ils sont mauvais, ils sont bons. Non,
moi, j'ai vu un de ses. Enfin, oui, il a une filmographie qui tient la route. Enfin, il a de compte à rendre à personne de ce côté-là. Il a de compte à rendre à personne. Enfin, je crois que là-dessus, il y a pas photo. Non, mais effectivement, Le Parrain, c'est le maître étalon du film de mafia. Enfin, pour moi, c'est vraiment voilà. Une fois qu'on a vu ça, on se dit bon, ben voilà, on a vu, on voit un film. Sur la mafia, qui parle de la mafia, qui donc nécessairement, enfin, il se clôt par en annonçant Le Parrain 2, enfin, la scène de clôture, la scène finale, on se dit bien que le jeune Corleone commence à prendre du grade et bon, bah maintenant, c'est lui le parrain, c'est lui qui est devenu parrain et donc on va le voir en action. Mais le film, ce premier numéro est vraiment éblouissant. Et c'est vrai, pour moi, voir la métamorphose d'Al Pacino tout au long du film, de la première des premières séquences où on le voit au mariage jusqu'à la dernière scène, puisqu'il est dans la dernière scène, c'est bah voilà, oui, on se dit un grand voilà ce que c'est qu'un grand comédien bien dirigé et ça c'est vraiment éblouissant. Enfin pour moi ça a été c'est éblouissant. Ouais.
Et pourtant il utilise un des poncifs du film noir et du roman noir, c'est-à-dire quelqu'un qui fuit la violence, parce que Al Pacino, c'est pas tant qu'il fuit la violence, c'est qu'on l'a mis à l'écart de la violence. Son père l'a mis à l'écart parce que c'est le plus intelligent, donc il veut qu'il s'en sorte. Mm-hmm. Donc déjà, il y a cette espèce, alors qu'on peut pas forcément comprendre, de fatum d'Al Pacino qui, on devine comme ça, il a hérité de son père une charge qu'il ne voulait pas et il essaye de la faire éviter à un de ses enfants qui souhaite voir dans le droit chemin quelque part. Et donc, dans le film noir et dans le roman noir, le personnage qui fuit la violence est toujours rattrapé par la violence et n'a d'autre choix que d'user de violence pour s'en sortir. C'est le cas avec Al Pacino, qui en plus, quand même, va devenir un être froid et cynique. Alors moi, je le transforme en cynique parce que, quelque part, il part en Italie, il part en Sicile, on le met à l'écart, il va être trahi, il découvre l'amour de sa vie. Il abandonne la femme à qui il était promis aux États-Unis et quand il revient plus tard, parce qu'il n'a pas d'autre choix, il va se marier avec.
Oui,
ça te faisait rire parce que tu voyais où je voulais en venir.
Je ne sais pas où tu voulais en venir, mais effectivement, cet aller-retour me semble est surréaliste. Quoi. La rencontre en Sicile, et puis le retour aux États-Unis et la re-rencontre, mais là, la deuxième rencontre avec sa première femme possible, montre effectivement que le personnage est quand même d'un cynisme très abouti. Hein. Enfin, c'est glaçant parce que au début, quand on le voit dans les premières scènes, Al Pacino, ben voilà, c'est le gentil garçon qui s'est trouvé une amie et puis qui se tient un peu loin de sa famille. Tout bascule quand effectivement quand il commence à agir. Enfin, sa première action, elle est quand même glaçante. Enfin, il a de la transpiration sur les mains, mais il va au bout de sa première action. Bon, il a tout bascule et le personnage se transforme. Mais effectivement, t'as raison, oui. C'est sûr que cette forme-là, cette forme d'histoire-là, où le personnage gentil, finalement, n'échappera pas à son destin, parce que le destin, il est là, il n'y échappera pas. Oui, mais c'est brillamment raconté par... Enfin, c'est là où Coppola est un brillant raconteur d'histoire, puisqu'il ne nous explique pas ça. Il nous raconte simplement l'histoire. Et ça, on le comprend, mais simplement en écoutant l'histoire que Coppola nous raconte.
Et oui, et c'est donc un film que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on le recommande, évidemment, parce que c'est du cinéma. Alors, c'est du cinéma d'homme qui... qui parle d'histoire d'hommes, parce que les femmes n'ont que très peu la parole. Et je crois que dans le film, le plus de bruit qu'elles font, c'est quand elles se prennent des claques, quelque part.
Il y a ça, ou quand elles pleurent, et elles sont d'une... Elles sont d'une naïveté confondante, quoi. La femme de Coppola, la femme de d'Al Pacino, donc sa deuxième femme en réalité, qui le croit dans les dernières 10 minutes du film, qui croit tout ce qu'il lui dit, c'est terrible, quoi. Enfin, c'est terrible.
Moi, j'avais pas l'impression qu'elle croyait. Enfin, j'ai l'impression qu'au fond d'elle, elle savait quelque chose, mais qu'elle en faisait son deuil, justement.
Oui, ben elle se promet à une vie pas forcément très joyeuse, oui.
Ceux qui vont côtoyer Al Pacino après, non plus.
Non plus.
On va passer donc pas du coq à l'âne, mais du parrain à la marraine, en parlant d'une bande dessinée qui est sortie chez Anne Carrière et qui s'appelle Queenie, la marraine de Harlem, de Elisabeth Colomba et Aurélie Lévy. Donc là, en revanche, on est dans une bande dessinée de femmes qui raconte l'histoire d'une femme, histoire véridique. Je le rappelle, Queenie, c'est Stéphanie Sinclair, une métisse née en Martinique, à Fort-de-France. Métisse en Martinique à l'époque où l'esclavage n'est plus là depuis 50 ans, ça veut dire qu'on est affranchi des hommes si et seulement si on se marie. Et elle, pour elle, son destin bascule le jour où sa mère disparaît. Et du coup, elle va avoir un rêve. Et ce rêve, il va être forcément américain. Et elle aussi, elle va débarquer comme à peu près 43 000 Caraïbains dans les années 1930 à Harlem. Alors, elle aura débarqué un peu plus tôt. Elle aura fait sa petite bonne femme de chemin, si je peux dire ainsi. Et elle va régner sur la loterie clandestine de Harlem avant que les Italiens viennent pointer le bout de leur nez. On revient toujours aux Italiens. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette bande dessinée, Luc ?
Bah c'est assez... d'abord, c'est... En fait, je vais commencer par te maudire, parce que là, je vois la bande dessinée en vrai, et moi, je l'ai lue en numérique. Et je ne te cache pas que sur le plaisir de la lecture, c'est quand même assez frustrant. Donc ça, c'est mis à part, parce qu'effectivement, on efface déjà un bel objet. Enfin, l'objet en lui-même est déjà très très beau. Ce que moi j'en ai pensé, bon moi je trouve intéressant qu'on raconte l'histoire, c'est des histoires qu'on connaît pas. Très rapidement, première réaction, je me suis dit Queenie, et puis il y a la saison passée ou la saison d'avant, je ne sais plus, peut-être bien la saison d'avant, on avait discuté, échangé autour d'un bouquin, d'une bande dessinée qui s'appelait La Baronne, et qui racontait l'histoire de la protectrice des jazzmen à New York, et entre autres qui a protégé Thelonious Monk, puisqu'elle l'a accueilli chez elle à la fin de sa vie. Et dans Queenie, les premières images, puisqu'on a des explications, des flashbacks à certains moments, hein, mais elle est dans un bar et on a qui au piano ? Eh bien, on a Thelonious Monk qui est là au piano. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, il y a un raccourci qui s'opère dans ma tête entre ces deux bandes dessinées. Là, on est dans une version très classique de la bande dessinée. C'est un noir et blanc magnifique. Enfin, c'est pour ça que je parle du travail d'édition. C'est vraiment un très, très beau noir et blanc. Et puis, ça nous raconte des histoires qu'on ne connaît pas, des ascensions, où on a cette petite gamine qui traverse la mer et qui arrive à Harlem et qui prend un pouvoir. Enfin, c'est une maîtresse femme, hein, elle dirige ses troupes d'une manière assez glaçante à certains moments. Moi, j'ai trouvé ça vraiment presque, comment dire, intéressant, parce que ça m'a appris des choses. En fait, c'est des choses que je ne connaissais pas, et ça m'a appris un aspect, par exemple des gangsters aux États-Unis, à New York. Parlons de New York et parlons de Manhattan, qu'on connaît pas, c'est-à-dire la face sombre Harlem. On la connaît finalement assez peu, et j'ai trouvé ça vraiment très très vraiment intéressant. Et puis c'est graphiquement beau, quoi. Enfin, c'est un vrai plaisir à lire, oui.
Oui, alors on la connaîtra un peu plus tard, notamment avec des auteurs comme Georges Pelecanos, mm-hmm. qui parleront justement de cette communauté afro-américaine. Moi, j'ai quand même un point d'achoppement là, ou un truc qui me choque un petit peu. Lucky Luciano et compagnie, on sait, c'est des méchants, c'est des criminels, ils tuent des gens. À aucun moment dans cette bande dessinée, qui est une bande dessinée, j'ai envie de dire, un peu élégiaque et un peu aussi contemplative sur le personnage, on a des facettes sombres, enfin, on a des facettes sombres de Queenie, mais on n'a jamais de facettes très sombres, des facettes très criminelles. Mm-hmm. Comme si un petit peu les deux auteurs, elles lui trouvaient des excuses. Pour moi, c'est compliqué, oui. Parce que de toute évidence, pour protéger son territoire en face de la mafia, alors italienne, irlandaise, tout ce qu'on veut, chinoise, on n'a pas le choix. Il faut être plus méchant que les autres.
Oui, non, mais effectivement, c'est vrai que on vient de parler du parrain. Et on a parlé, alors donc le parrain, c'est dans les années 40-50. Queenie, c'est 20 ans avant.
C'est 1930.
Oui. Voilà, c'est ça, on est 20 ans avant. Mais peu importe, hein, l'état de la violence.
C'est Scarface.
Voilà, on est effectivement à ce moment-là. Et effectivement, finalement, dans Queenie, y aurait des... Comment dire, des gentils voyous, quoi. Et en l'occurrence, là, c'est une femme. Enfin, alors que, dans cet univers-là, survivre, il fallait être effectivement très dur en affaire, ce qu'elle semble être, mais c'est pas graphiquement représenté. C'est pas un des aspects qui est représenté graphiquement. La violence qui est représentée graphiquement par rapport à Queenie, c'est son enfance. C'est donc les violences qu'elle subit dans son enfance. Mais quand elle est adulte, bon, ben elle mène son affaire. Et effectivement, d'une manière quand même, enfin, moi, que je trouve glaçante, quoi. Enfin, elle fait, ouais, il n'y a pas de, enfin, c'est, j'aurais pas aimé la rencontrer. En fait, très honnêtement, je te le dis, j'aurais pas aimé la rencontrer.
Non, mais on est d'accord sur la violence qu'elle a subie enfant et qui explique en fait la violence qu'elle peut rendre après. Mmh. Ça a déjà été, enfin, sociologiquement parlant, ça peut s'expliquer. Ce qu'elle a vécu enfant a été affreux. Mmh. Moi, je crois. Ce qu'elle a fait vivre a priori a été affreux. Enfin, ou alors c'était une vraie marraine et elle est sympathique. Enfin, même son appellation Queenie, ça nous la rend sympathique. C'est ça qui est formidable. Je ne cache pas que Michael chez Dargaud va faire paraître le premier tome qui s'appelle Harlem et qui est aussi dédié. C'est un diptyque qui est dédié à cette fameuse Stéphanie Sinclair, preuve s'il en est que ce personnage attire l'édition, peut-être d'ailleurs que les personnages féminins attirent un peu plus l'édition, et on s'en réjouit aussi tout en attendant un équilibre. Je sais pas quoi.
Alors moi, je voudrais rajouter quand même une chose pour les gens qui vous. Alors, on a Harlem. Je vais pas faire mon routard, mais pour avoir eu la chance de me balader dans Harlem. Sous l'œil attentif de mon fils qui m'a dit n'allez pas trop loin de Harlem parce que c'est pas bien, c'est pas forcément recommandé, mais j'ai eu l'occasion de passer devant l'Apollo Theater. Mais je recommanderais une lecture tout à fait intéressante, le bouquin de Laurent de Wilde qui s'appelle Monk, qui raconte la vie de Thelonious Monk et qui traverse tout Harlem. Et c'est en complément d'images telles que celles qui nous sont données dans Queenie, je pense que ça peut être des compléments de lecture vraiment tout à fait intéressants. C'est un très beau livre, enfin que moi j'adore. Mais voilà, sur Harlem, voilà, il y a d'autres entrées qui nous parlent pas d'ailleurs beaucoup. Pourtant, Monk a été vraiment dans cet univers-là, mais qui nous parlent d'autres choses. Mais voilà, pour avoir des images de Harlem.
Oui, alors ce qui me fait d'ailleurs dire que moi j'ai un peu regretté à la fin de la bande dessinée qu'on nous fasse toute une liste des personnes qui avaient gravité autour de Queenie et de Harlem à cette époque-là et de m'être dit qu'elles étaient assez transparentes dans le récit parce que le récit il se passe de temps en temps à Cotton Club et Cotton Club alors n'était pas ce que je pensais qu'était Cotton Club à travers le film c'est-à-dire que c'était quand même un club interdit aux noirs un club de noirs interdit aux noirs c'est formidable la vie aux États-Unis à cette époque-là Tout d'un coup, en fait, la bande dessinée, elle se conclut par tous ces personnages formidables. Et elle me donne, moi, elle me laisse un goût amer sur la langue. Elle me dit, tiens, je te montre tout ce que tu n'as pas eu dans la bande dessinée.
C'est vrai.
Alors que, pour rebondir sur ce que tu disais sur les flashbacks, c'est joliment fait. Il y a un changement de couleur qui est bienvenu, qui est classique, mais qui est bienvenu. Le dessin... alors, je dirais pas qu'il est extraordinaire, mais il est bien fait. Oui. Moi, je suis assez captivé.
Graphiquement, c'est très beau. Oui.
Graphiquement, c'est beau. Ça tient très bien la route. Mais ça manque de personnages iconiques, de personnages. Alors, on a le personnage iconoclaste de Queenie, mais c'est tout. Alors, on a son amant, on a son second, il me semble. Alors, je mets plein de guillemets. On passe assez rapidement sur la dernière partie de sa vie et notamment sur les moments qui sont peu reluisants dans sa vie, notamment son mariage avec le soufi Abdul Hamid, qui était un antisémite notoire, qui était considéré comme le Hitler noir et qui a été abattu dans la rue. On a dit qu'elle était coupable, elle a fait 10 ans de prison pour ça. Alors évidemment, derrière, c'était Sœur Queenie. Elle s'est dédiée à donner une conscience sociale et sociétale aux Noirs américains, ce dont on peut évidemment...
n'est pas un Malcolm X qui veut.
Non, mais de toute évidence, c'est un personnage. Et alors toi, t'aurais pas voulu le rencontrer, mais moi, j'aurais bien voulu. Voilà, j'ai confiance en ma bonne étoile.
Moi, je veux bien la bonne étoile, mais pas n'importe où et pas avec n'importe qui.
je vous rappelle cette bande dessinée Queenie, c'est d'Elisabeth Colomba et Aurélie Lévy, et c'est chez Anne Carrière qui, sauf erreur de ma part, publie sa première bande dessinée. On laisse la parole 2 minutes à Linda qui n'était pas là et qui voulait émettre un avis, et je crois qu'elle partage le tien quant à la lecture sur écran avec des presses en filigrane qui polluent l'esprit. Et on se retrouve après.
Oui, Julien, moi, je ne vais pas m'étendre sur le fait que ce soit le point de vue d'une femme fait par des femmes, ni que ce soit du point de vue des Noirs. Effectivement, je connaissais du point de vue des Italiens et du point de vue des Italiens. Voilà. J'imagine que tout le monde l'aura pointé. Par contre, alors, pour autant, je ne savais même pas qu'il y avait des femmes dans la pègre. Alors oui, les prostituées, ça, évidemment. Mais je veux dire, en haut de la pyramide, là, j'apprends. Par contre, alors, bon, c'est intéressant tout ça. Je suis un peu circonspecte par rapport à deux choses. C'est-à-dire, alors effectivement, c'était pas funky de regarder ça sur un écran avec marqué confidentiel en long, en large, en travers, même si je comprends que les auteurs aient fait ça, hein, c'est pas le problème, mais c'est un peu compliqué, et j'ai eu un peu de mal avec les dessins, et je dois même vous avouer, j'ai eu un peu de mal à reconnaître en fait certains personnages, ce qui m'a posé quelques petites difficultés sur les rebondissements de la fin. J'étais un petit peu longue à la comprenette. Hormis ça, comment dire, pour moi, c'est un manque de corps, en fait. Je trouve que ça, comment dire, je suis pas du tout une adepte et une adoratrice du sang qui gicle, de la souffrance, etc. C'est un peu évoqué, mais j'ai quand même le sentiment que du côté de cette dame, c'est des gentils. Alors que pour avoir une place, je ne crois pas du tout que ça puisse être des gentils. C'est un petit peu évoqué à un moment donné, eux aussi trucident, elle fait un petit peu de bobo, des choses comme ça. Mais bon, je ne sais pas, ça ne m'a pas embarqué en fait. J'ai trouvé ça intéressant, et quand on dit que c'est intéressant, on reste quand même d'un point de vue un peu extérieur, et c'est dommage, voilà. Mais c'est pas du tout un mauvais objet, hein. Je suis pas en train de dire ça. Voili voilou.
Et voilà, on approche de la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous recevions par téléphone Pierre-Marie Soncarieux pour causer du Salon Imaginaire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on laisse la place à ces mêmes amis imaginaires. Vous voyez qu'ils existent. à dans 15 jours, les amis. Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur le site de Radio G pour en savoir plus. Bye bye, Luc.
Salut.
Radio G 101.5 FM.